Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Bienvenue dans le bureau des commissaires, Alain Crête, mes hommages.
Comment allez-vous aujourd'hui? Salut tout le monde.
Salut. Ça va bien.
Avant qu'on s'ostine sur l'équipe du quart de siècle du Canadien, là, dans 25 ans, j'en ai trouvé une bonne et j'ai goût de vous mettre au défi rapidement pour le fun parce que je trouve qu'il y a une bonne colle là-dedans. La Ligue nationale de hockey a sorti les formations étoiles du dernier quart de siècle, donc de 2000 à 2025. On a fait quelques clubs. Messieurs les commissaires, selon vous, qui est sur la première équipe d'étoiles des 25 dernières années des Flyers de Philadelphie?
Oui, Colin.
25 dernières années? Éric Lindros, John Leclerc, Éric Desjardins.
Éric Desjardins, là.
Michael Renberg.
Renberg n'est pas là.
Non? Parce qu'il jouait avec Lindros puis Leclerc.
Je pense que Lindros, on le voit trop. Je pense que ça fait trop longtemps, Lindros.
Parce qu'oubliez pas une chose, là. Il y a des gars qui ont commencé à jouer dans les années 90. Ça compte pas, ça. Là.
Non, exact. Ça compte juste à partir de 2000.
Tu vois, il a quitté en 2000 les Flyers, Éric Lindros.
Daniel Brière, es-tu là-dessus?
Daniel Brière est sur la deuxième équipe.
Elle a un peu le Pomberger.
C'est Richard, assez, Mike Richards.
Okay. Je vous donne Mike Richards. Jeff Carter ou Mike Richards, c'est bon ça. J'ai
Mike Richards est là.
Okay.
Carter est pas là.
Okay.
Moi, j'ai hâte que tu me dises c'est qui le gardien de but, par exemple.
C'est ça. C'est, elle a la pogne. C'est...
Allez, ça sera Doug Favel. Ça sera pas Michael Layton, certain.
Je vous donne la première ligne. Simon Gagné.
Le filet, va dire, il y a eu de la misère un peu. Là,
ben, depuis, c'est ça. Simon Gagné. Claude Giroux. Mike Richards. À la défense, Éric Desjardins, Kimmo Timonen.
Okay. Ouais, t'es bon, lui.
Et dans les filets, d'après moi, même lui, il a fait le saut quand il a ouvert sa page Google, Roman Čechmanek.
Ils n'ont jamais eu de gardien de but, les Flyers. Depuis que le gardien est mort d'un accident de voiture.
Chapeau à Sam Mann et chapeau à Eric Malte qui l'avait trouvé, Čechmanek, sur la messagerie texte.
Et la deuxième équipe, rapidement, Brière, Couturier, Voracek, Pronger, Provorov et Brian Boucher. Messieurs les commissaires, enfin, on fait pas la deuxième, juste la première. Dans 25 ans, là, mettons qu'on prend de 2025 à 2050, là, on n'a pas les échantillons des années à venir, là, mais mettons qu'on fait ça dans 10 ans, là, c'est qui la première équipe d'étoiles du Canadien?
C'est sûr que tu vas Suzuki, Caulfield,
Demidov
ou Slavkovski, ouais. Peut-être.
Demidov.
Complété, c'est ça.
Hudson Goulet.
Lane Hudson Goulet. Puis devant le filet, ben là, il faudra voir, là, parce que.
Jacob Fowler.
Mais quand Fowler arrive, puis il devient un excellent gardien.
Ouais.
Là, ça serait probablement ça, mon équipe d'étoiles. Moi, là.
Ouais, je sais pas. Évidemment, il faut se laisser de la place là, pour des joueurs qui présentement jouent à tombe. Là, mais ça va être intéressant. Juste là, je trouve que cette formation-là qu'on vient de nommer, là, ça a plus de sens que ce qu'on a vu avec Pacioretty, Gallagher, Surrey, Subban, Théodore. T'sais.
Aime beaucoup
Sherman. Ouais, ça reflète un peu les 25 dernières années du Canadien aussi.
Exact,
là.
C'est ça. Des vaches mecs.
Ouais.
Ouais, mais en même temps, Théodore, il a tout gagné, là. Le dernier à avoir fait ça, c'est Carey Price. Hein. Théodore avait tout gagné aussi, il a été bon en crime.
Il y a trois gardiens dans la ligue qui ont gagné le trophée Hart, puis Hachek a gagné deux fois. Les deux autres, c'est Théodore puis Price. Ça fait que, tu sais, c'est quand même un exploit assez spectaculaire qu'il a réalisé, là.
Ouais, mais j'enlève rien à Théodore, Gilbert, puis ça a été un excellent gardien, mais c'est pas un gardien qui a eu une longévité d'excellence non plus, tu sais, il a été très très bon, puis après ça, ça a été un peu compliqué avec les Caps, avec le Wild, avec les Panthers, là, tu sais, c'était un gardien dominant, là, pendant 15 ans, mettons, mais à Montréal, lors de son année, qui a gagné le Hart, c'était en 2002, ça, il était vraiment, vraiment bon, ça, faut lui donner, par contre, là, il mérite vraiment...
Non, mais tu sais, il se fait Hall of Famer comme Price Van Light, par exemple,
C'est intéressant ces discussions-là parce que ça nous permet de nous projeter. Puis tu sais, la discussion qu'ont eu Georges et Gonzo hier là-dessus sur les années de Vachemeg, tu sais, on s'entend pas mal, tout le monde est bien, bien excité de ce qui se passe présentement en disant qu'on a tourné le coin, mais là, on a un échantillon d'à peu près 4 semaines.
Ouais.
Tu sais, j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que à la fin de la saison, nos attentes vont être remplies? Quelles étaient vos attentes? Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que vous seriez pas déçus de cette saison du Canadien de Montréal, mettons?
Moi, je pense que si ça continue comme ça, les attentes, même si le Canadien fait pas les séries, les gens achetaient le fait que le Canadien soit dans le mix cette année. Moi, je pense que cette année, les gens voulaient avoir une progression. Peu de gens pensaient que l'équipe allait faire les séries éliminatoires. Alors, à moins qu'il y ait un effondrement total d'ici la fin de la saison, ce que je pense pas qu'il va arriver, là. Mais je pense que peu importe que le Canadien fasse les séries ou non, si ça continue comme ça, je pense que les gens vont être contents. Puis là, en se disant, il y a un progrès, on a vu Lane Hutson, c'est un joueur de la Ligue nationale. L'an prochain, Demidov arrive, éventuellement Michael Hage de l'université. Alors, Fowler va arriver. Alors, je pense que là, les gens vont avoir toutes les raisons d'être optimistes puis dire, ben l'an prochain, je pense que là, on peut parler de séries éliminatoires avec la saison commence.
Ouais, puis t'sais, moi, je suis d'accord avec toi, Alain, puis il faut pas, surtout pas, puis on a parlé tout à l'heure, les gars, en début d'émission, il faut éviter les séries de défaites parce qu'on va glisser, puis on va glisser rapidement, puis on veut pas ça.
Ouais.
T'sais, on veut pas perdre l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est de l'avoir de l'intérêt jusqu'à la fin de l'année. Puis t'as raison, Alain, tu sais, j'aimerais ça qu'ils fassent les playoffs, puis j'ai prédit qu'ils faisaient les playoffs cette année et tout ça, mais si jamais on manque les playoffs par 2 points ou par 4 points, parce qu'on est arrivé à court un peu, ben mais on a continué à se battre toute l'année de même, puis on a resté dans le mix toute l'année. Peut-être l'année prochaine, ça va être mieux, puis on sera pas déçus. Là. Ouais. Mais moi, je veux juste pas tomber en dehors des playoffs de 8, 10, 12, 14 points, puis là, tu sais comment c'est que c'est, là, tu sais, rendu au mois de mars, là, l'intérêt descend, puis c'est moins de fun un peu dans ce temps-là.
Tu vas avoir l'impression d'être revenu à la case départ, là, si tu ratais les séries par 10, 12, 14 points, là, tu te calines. On est revenu où on était l'an passé.
Mais il faudrait pas capoter, par contre, parce que les Devils ont fait ça. Les Devils ont surpris tout le monde, ont fait les séries. L'année suivante, déception, mais cette année... De nouveau, une formation dominante. Fait qu'à un moment donné, une reconstruction, c'est pas linéaire. C'est sûr qu'on souhaite pas ça non plus, là. Je pense pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. Tu l'as dit, moi, je suis satisfait au moment où on se parle. En date du 20 janvier, 21 pour être exact, on est compétitif. Prochaine étape, être encore compétitif lorsqu'il y aura la pause de 13 jours de la Coupe des Quatre Nations.
Mais je vais te dire que t'es satisfait depuis un mois.
Oui, bien sûr, Alain, bien sûr. Mais je te dis juste qu'au moment où on se parle, si la saison s'arrêtait maintenant... Objectif rempli de la part de l'organisation. J'espère que j'aurai encore le crochet de cocher à la Coupe des Quatre Nations. J'espère que ce crochet-là va être encore là le 7 mars à la date limite. Il y a certaines étapes qui s'en viennent. Faut que le Canadien se maintienne au plus fort de la course. Puis idéalement, faut que ce soit encore le cas à la fin avril.
Là. Les gars, le Lightning a choisi d'envoyer André Vasilevski dans les filets ce soir et de faire garder les buts à Jonas Johansson contre les Leafs. Vrai ou faux, le Lightning craint plus le Canadien que les Maple Leafs?
Ben, c'est un gros match pour Tampa Bay ce soir, là. Parce que le Canadien peut s'approcher à un point du Lightning si, avec une victoire. Fait que, tu sais, est-ce que Tampa préfère rejoindre Toronto au premier rang ou assurer sa position au classement actuellement, là? Fait que, je suis surpris. Je pensais qu'il aurait utilisé dans les deux matchs. Parce que Vasilevski, c'est le genre de cheval, tu sais, qui en joue les matchs dans une saison de hockey, là. Alors, écoute, je te dis pas que, ils doivent certainement craindre le Canadien ou en tout cas se dire à soir, là, une défaite, ça commence, oh là, on va se faire chauffer les fesses un peu. Là.
Ouais.
Ben, on peut s'assurer des 2 points. T'sais, comme Anthony, je pense que c'est toi qui as dit ça en début d'émission. Tu t'en vas à Toronto, c'est sur papier, c'est un match qui est plus difficile à gagner. Tu veux-tu brûler tes cartouches puis envoyer Vasilevski dans le net? Puis même s'il en joue une bonne, tu perds le match quand même. Là, tu t'en vas le lendemain à Montréal, puis tu fais jouer ton goaler numéro 2 contre le Canadien. Fait que moi, je pense qu'ils ont regardé le classement, ils ont regardé le Canadien. Oui, le Canadien va bien, mais le Lightning, t'as pas bien, il chèque pas dans les bottines le matin là, à affronter le Canadien à soir. Là. C'est sûr qu'il faut que tu joues un bon match et tout ça, mais eux, d'après moi...
C'est un gros match pour eux autres.
C'est un gros match, certain, c'est un match de 4 points, puis si on gagne, c'est un point, mais tu comprends ce que je veux dire. Les Leafs de Toronto...
Surtout après ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Tu sais, Tampa Bay a certainement vu ce que Toronto a fait samedi soir contre le Canadien. Là, ils se disent, toute une machine d'hockey. Il faut reconnaître une chose. Toronto est toute une machine d'hockey cette année.
Mais vous mettez le doigt sur Bobo, les gars. Moi, je pense que le Lightning et John Cooper en tête parce qu'au final, c'est sa décision. Quand il regarde le classement, il regarde pas par en haut Toronto, il regarde par en bas Montréal. Ouais, et il se dit, il y a de réelles chances que je rate les séries éliminatoires si on se ressaisit pas. Puis j'ai pas le choix. C'est la game la plus importante entre les deux parce que c'est pas vrai que j'ai une chance de terminer devant les Leafs. Mais il y a une réelle chance que je me fasse dépasser par Montréal. Donc, je dois mettre mes œufs dans le panier. Moi, je pense que en même temps, tant mieux pour Martin Saint-Louis. C'est une marque de respect envers son équipe.
Les gars, voilà.
N'oubliez pas une chose. On parle du Canadien, mais t'as Ottawa, t'as Boston, puis t'as Columbus là, qui court après le Lightning de Tampa Bay. Là. Ça fait que ils veulent se distancer de ces clubs-là aussi.
Exact.
Là.
Tout le monde leur court après. De retour dans le bureau des commissaires avec Alain Crête. Au moment où on se parle, Jakub Dobesch est 5-0-0 avec le Canadien de Montréal. Va voir de l'action assurément cette semaine avec le calendrier qui s'en vient. Samuel Montembeault en a connu une plate samedi contre Toronto. Il sera probablement dans les filets ce soir. C'est une performance qui est d'une importance capitale pour lui. Si Montembeault l'échappe ce soir, on va devoir revoir l'utilisation des gardiens de but chez le Canadien. Vrai ou faux?
Pas encore. On n'est pas encore rendu là, je pense. Tu sais, on repartira pas le débat Price-Halak là, qu'on a connu il y a quelques années. Moi, je pense que c'est sûr que Dobesch a des buts spectaculaires, mais dans le match face aux Rangers, ses deux arrêts en prolongation ont sauvé son match.
Oh, parce il était shaké.
Il était pas, là, c'était pas une performance outstanding là, dans les trois premières périodes. Il a sauvé ça en prolongation. Alors, moi, je vais attendre avant qu'on reparte le débat, là. Mais c'est sûr que ça met de la pression sur Samuel Montembeault. Mais on va attendre dans le cas de Dobesch. Là, je vous rappelle que dans la liste des gardiens qui ont connu des carrières fulgurantes, celui qui mène, c'est Wayne Thomas. Puis je pense que Michael Condon est dans la liste également. Ça fait que, tu sais, on va attendre un peu, là. Mais il est pas. Je pense pas qu'on est encore dans un débat, là, Montembeault-Dobesch.
Oui, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord avec Alain. Il n'y a pas de dos à dos jusqu'au 4 février, 5 février prochain dans le Lord's Voyage de la Californie. Moi, je pense que cette semaine, c'est clair. Ce soir, ça devrait être Montembeault. Jeudi, ça devrait être Dobesch. Puis samedi, ça devrait être Montembeault. On va les alterner un à un. C'est déjà un bon accomplissement pour pour Dobesch de jouer 50% du temps. Là. Habituellement, c'est deux matchs sur trois pour le gardien de but numéro un. Moi, je pense qu'on est dans une fenêtre là de un match à la fois, puis on verra si Montembeault a un blanchissage puis que Dobesch est plus difficile jeudi ou l'inverse, ben tu réajustes le tir en conséquence, mais pour l'instant, je pense que c'est un peu prématuré de partir en peur avec Jakub Dobesch.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux gardiens de but qu'on peut mettre dans la mêlée, là, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas astiné pour le goaler, là. Sérieusement, là, tu sais. Mais le goaler partant, là, sérieux, Alain, là, tu sais, t'avais Primo Montembeault, hein, c'est un fou d'une poche, là, vraiment, là, tu sais. Fait que là, on a cette discussion-là, mais Montembeault, c'est ton cheval. Depuis le début de la saison, tu sais, il y a 35 games de jouer, Samuel Montembeault. Tu sais, oui, ça va pas bien été le dernier match, mais la dernière chose que tu veux, c'est de le sortir ce soir, parce que lui, là, il sait qu'il y a eu une mauvaise game. Lui, là, il veut se reprendre. C'est comme moi, là, quand je connaissais une mauvaise game, le lendemain, je voulais pas que le coach me mette dans les estrades, là. Je voulais jouer à game, là, parce que je voulais me reprendre, là. Mais Montembeault, il y a de la fierté. C'est ce qu'il veut faire. Puis c'est correct. Puis si Dobesch joue jeudi, puis Dobesch en joue une grosse, mais là, Montembeault, en fin de semaine, il va en jouer une grosse parce qu'il veut compétitionner avec son chum. Puis c'est ça, pour le Canadien, c'est positif, là, on partons, là.
Moi, je pense... Je suis d'accord avec Tony quand tu dis le plus gros accomplissement jusqu'à maintenant, c'est que pour Martin Saint-Louis, t'as deux gardiens, tu peux les alterner, t'as pas peur d'envoyer Montembeault, t'as pas peur d'envoyer Dobesch.
Exact.
C'était pas le cas avec Primo, tu sais. Primo, c'était toujours une aventure. Là, maintenant, t'as deux gardiens qui peuvent faire de la job, en tout cas jusqu'à nouvel ordre.
Ouais, puis il y a pas si longtemps, là, il y a un an à peine, là, c'était une situation de trois gardiens de but. Là, parce que Kaylen Primeau avait peu d'action. Lorsque Jake Allen, c'était toujours une aventure de quand est-ce qu'il y a un départ, puis là, il joue en Floride, mais les jugements à Montréal, toi, tu t'en vas, tu prends déjà l'avion, t'en vas te reposer. Là, dans une situation normale où est-ce qu'on a des gardiens de but à laquelle on a confiance puis qu'on va utiliser 50% du temps, je pense qu'il faut pas en faire tout un plat, honnêtement, à moins que Montembeault enchaîne 3, 4, 5 mauvais départs. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on peut garder ça comme ça.
La Ligue nationale de hockey a sévi à l'endroit de Connor McDavid. 3 matchs pour un coup de hache en pleine tête, un cross-check à l'endroit de Connor Garland. Est-ce que vous êtes en accord ou pas avec cette suspension?
Moi, je suis en accord. D'abord, c'est pas sa première suspension. Il avait déjà écopé 2 matchs pour un coup à la tête aussi. Et là, c'est assez évident, c'est un double échec au visage. On dit que la Ligue veut relever la barre un peu pour les coups à la tête comme ça, là. Mais si tu donnes 3 matchs à McDavid, puis moi, j'ai pas de problème avec ça, faut que tu en donnes 4 ou 5 à Tyler Myers, par exemple. Parce que dans le cas de McDavid, tu sais, il y avait un accrochage, il y avait un échauffouré, Garland était en train de le gosser, puis c'est... Mais dans le cas de Myers, là, il y a rien, là. Evan Bouchard s'avance vers lui, puis soudainement, bang, il cross-check dans la face. Mais il y a pas de bagarre entre les deux, il se passe rien, là.
Alors, non, en même temps, Myers, il n'y a pas d'antécédent. T'sais, c'est ça, là.
Oui, mais tu sais, le geste, à mon avis, est beaucoup plus gratuit dans le cas de Myers, même si je pardonne pas McDavid, là. Mais McDavid, au moins, il est en train de chamailler avec l'autre, là. Fait que Myers,
D'accord avec toi là-dessus. C'est directement, c'est pas nécessaire. Il aurait pu pousser dans le chest, il aurait pu
faire autre chose.
La raison là-dessus, on donne 3 games, mais dans le cas de McDavid, moi, je pense, les gars, on n'a pas le choix parce que on avait fermé les yeux la semaine passée. La semaine passée, Tony qui a donné un coup de coude en passant au visage de quelqu'un. Exactement. Fait, on avait fermé les yeux complètement. Fait que là, il le refait quelques jours plus tard. T'as pas le choix de s'éveiller. Puis, tu sais, Connor McDavid, ça a beau être le visage de la Ligue nationale de hockey, mais ça te permet pas de donner des coups de hockey sans rien à tout le monde là, quand tu veux. Là.
Mais c'est un bon point que t'amènes parce que j'écoutais les commentaires des journalistes d'Edmonton. L'an dernier, dans les dernières années, McDavid était dans le deuxième, troisième joueur qui attirait le plus de pénalités contre lui dans la Ligue nationale. Et cette année, il est entre 40 et 50. Et les Oilers pensent qu'il y a un petit laxisme au départ, en mer de l'arbitrage au départ de McDavid. Il y a un relâchement actuellement. On se dit, il subit des traitements assez comme ce que Garland a fait. Fait qu'il réplique. Faudrait que la Ligue soit un petit peu plus sévère pour les gestes posés en endroit de McDavid, comme on l'était dans le passé.
Ouais, puis j'écoutais Tully Two Tots, l'épisode, je sais pas si c'est l'épisode, ça doit être l'épisode de lundi, et Freeman rapportait que Chris Chelios, à quelques occasions dans sa carrière, faisait un coup salaud, puis il avait dit aux journalistes, j'aime ça rappeler à tout le monde qu'une fois de temps en temps, je suis capable de faire mal, juste pour être craint un peu. Je pense pas que Connor McDavid essaye d'être craint, c'est pas ça mon point. Le point, c'est qu'à un moment donné, tu veux juste rappeler à tout le monde que, hey, si vous êtes toujours sous mon dos et que les arbitres s'en chargent pas et n'appellent pas de punition, ça se peut que tu reçoives une conséquence. Je pense pas que c'est la bonne décision quand même d'aller un double échec au visage, mais peut-être que Garland va y penser à deux fois la prochaine fois en tentant de neutraliser un adversaire comme ça, alors qu'il reste une quinzaine de secondes à faire au match.
Ouais, dans le cas de Chelios, ça faisait partie de son ADN. Il aimait ça du bâton du Sherwood, lui.
Mais tu te faisais respecter, Alain, dans ce temps-là. Tu répliques jamais comme McDavid, puis là, tu viens de le dire que c'est un joueur sur lequel on prend toujours des libertés, à un moment donné, tu dis, Colin, faut je mette mon pied à terre.
Non, je suis d'accord avec toi. McCrosby l'a fait à quelques reprises, mais tu sais, McDavid, il répliquait en marquant, en récoltant 160 points par année.
Les Oilers sont bien positionnés quand même. T'sais, c'est pas. Si les Oilers se battaient pour une place en série, là, ils se battent pour la tête de la Pacifique. C'est pas, peut-être pas la même chose, mais en même temps, moi, je trouve que c'est sûr que trois games, il va manquer aux Oilers Edmonton, là. S'ils finissent pas en tête de la Pacifique, peut-être que ça va être à cause de ça. S'ils perdent une coupe de game parce qu'il est pas là, c'est possible aussi.
Ouais.
Faut pas. Je comprends là, que c'est frustrant que tu te fais accrocher, puis je comprends qu'il y a le faux cul et tout, là. Mais faut pas que tu passes avant l'équipe. C'est juste ça, moi. Puis je trouve que là-dessus, McDavid, des fois, là, il est un peu prima donna pas mal, je trouve.
Il va d'ailleurs être suspendu pour le match reprise contre ces mêmes Canucks de Vancouver. Là. Ça va être le deuxième match de sa
saison. Tu sais, quand on va entrer en série là, avec les Oilers qui veulent donc gagner la Coupe Stanley pour mettre le couvert sur la marmite, pour arrêter tout ce qu'on dit depuis les dernières années, les gars, ils savent là, que le presto est capable de sauter. Puis McDavid a l'air tout le temps comme sur le bord de la crise de nerfs ou à peu près. Il veut tellement gagner, il veut tellement que ça se passe. Regardez-le bien se faire picosser en série de fin de saison pour que justement ça réarrive, pour qu'on le fasse sortir de l'alignement. Le gars va avoir du travail à faire là, sur contenir ses émotions.
Et si les séries commençaient ce soir, encore une fois cette année, les Oilers croiseraient le fer avec les Kings au premier tour. Donc il y aura encore Philippe Danault d'en face pour la, c'est-tu la troisième ou la quatrième année de suite? Ça serait la quatrième année de suite Oilers-Kings en première ronde. C'est quand même fou, là!
C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. On a hâte de voir la fin de saison des Oilers, mais assurément, on a... même dans l'Ouest, on en parlait dans l'Est à quel point c'est serré, là, mais même dans l'Ouest, ça va être très, très bon. Bon, on va terminer avec cela, les gars. Il nous reste un petit deux minutes. Est-ce qu'on a vu le dernier match de Michael Pezzetta dans l'uniforme du Canadien de Montréal avec l'arrivée de Winbeck?
Moi, je pense que oui, honnêtement. La semaine dernière, on en parlait. Là, je me disais qu'au retour de l'équipe à Montréal, on allait rappeler quelqu'un. Écoutez, il joue pas. Quand il est en uniforme, il joue deux minutes par match. Il a trouvé le moyen de prendre des pénalités à chaque fois, puis des pénalités tôt dans le match, à part ça.
Ça enlève du momentum.
Écoutez, moi, il a bien beau, on a bien beau l'aimer, il a bien beau être un beau coéquipier, puis bien le fin, mais j'ai été étonné qu'on rappelle Owen Beck, par exemple, mais moi, je pense que dans le cas de Pezzetta, son avenir avec le Canadien est derrière lui.
Je suis un peu d'accord avec toi, Alain, écarte. C'est malheureux parce que, tu sais, je le connais pas personnellement. Tu sais, toi, tu y as parlé probablement plus souvent que moi, là, mais ça semble être un bon coéquipier, gars et tout ça, mais en même temps, t'es plus capable de faire la job sur la glace. Tu sais, puis, Michael Pezzetta, c'est pas comme s'il se promenait sur la glace puis il était intimidant non plus.
Non, là. C'est ça.
Une autre chose, écoutez, regardez le match contre Dallas pour vous montrer qu'en plus de ça, quand t'es sur la patinoire, en force de pas jouer, il a pas confiance en lui. D'abord, avec la rondelle, il sait pas quoi faire avec. Puis, il a pris une pénalité à Dallas alors qu'il y avait un hors-jeu à retardement contre les Stars. Si le gars des Stars touche à la rondelle, le jeu s'arrête là, l'arbitre siffle. Ben, il a trouvé le moyen de cross-checker le gars pareil. c'est le signe. Non, mais c'est le signe d'un gars, tu sais, je pense que là, il est pas confiant.
Il veut montrer qu'il veut jouer, il veut démontrer de l'enthousiasme, de l'intensité, tout ça, mais faut que tu Faut que tu t'enlignes à la bonne place avec ça, l'enthousiasme puis l'intensité, parce que tu peux pas te permettre, un gars comme Pezzetta, prendre des pénalités à chaque match, mettre ton club dans la merde. Impossible.
Ouais, puis c'est honnêtement, c'est dommage à dire, mais c'est le candidat parfait pour être sur la galerie de presse. Fait pas de vagues, bon ça. Coéquipier. Va, ouais, fait que là, lui peut rester en haut, va continuer à encourager ses coéquipiers. Ben, pas personne qui perd de temps aussi, parce que si c'est un Joshua Roy, il est blessé, mais Owen Beck ou encore un Philippe Méchard qui lui revient de blessure ou encore, peu importe, quelqu'un que t'espères pour le futur, ben là, lui, il se développe pas. Mais encore, peut-être, il n'a pas besoin de se développer, là, c'est fini.
Alors, il est juste content d'être là, lui.
C'est ça. Exact. Un gros merci, messieurs. Ben, avant de vous laisser aller, quelqu'un qui m'a envoyé ça sur la messagerie texte, on parlait des équipes de quart de siècle, puis on se demandait quelle serait, mettons, la meilleure équipe du dernier quart de siècle, puis c'est débattable, puis ça s'évalue, mais voici la première équipe d'étoiles des 25 dernières années de l'Avalanche du Colorado. Peter Forsberg, Nathan McKinnon, Joe Sakic, Adam Foote, Cal Makar, Patrick Roy. Merci, bonsoir.
Ouais, pas pire, ça.
T'aimes pas, doit en avoir une pas pire. Les Penguins de Pittsburgh doivent en avoir une pas pire.
C'est impressionnant.
C'est pour ça qu'on se plaint pas le vent de plein, là, avec la Canadienne.
Non, c'est
moi,
ça.
C'est là où est-ce que le débat.
C'est bien beau, Thomas Plekanec, là, mais c'est ça, c'est pas pire.
Hey, non, mais pour vrai, non, mais sérieux, là. Sérieux, juste ça, là. Tes meilleurs centres.
Ben oui.
Plekanec, Koivu, là. Caroline,
bien sûr, là.
Tu pourrais même dire d'autres choses à la place de Caroline, là.
Ouais, mais j'ai un over-under, il est à 3, moi, je vais. Faut vraiment que j'y aille.
Je pourrais être normal ce matin.
Ouais. Hey, Zola, Alain, gros merci de ton temps ce matin.
Salut, bye.
Salut.